Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée au marché des matières premières, miroir de toutes les tensions géopolitiques et économiques de la planète. Que nous disent-elles ces matières premières de notre monde aujourd'hui après 30 années de mondialisation? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, président fondateur de Cyclope, le principal institut de recherche européen sur les marchés des matières premières. Cyclope qui publie cette année la 30e édition du rapport annuel du même nom. Sous le titre « Les marchés mondiaux à la recherche des sommets perdus » aux éditions Economica. Philippe Chalmin qui a par ailleurs dirigé « Des ressources et des hommes, matières premières 1986-2016, trois décennies de mondialisation et au-delà » qui vient de paraître aux éditions François Bourin. Bonjour.
Bonjour.
Et Francis Perrin, président de Stratégie et politique énergétique et directeur de la rédaction de Pétrole et gaz arabes et de la lettre OAG Africa. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Chalmin, que nous révèle du monde le prisme des matières premières? Vous parlez du passage du stable à l'instable que vous datez au tournant de ce siècle. Comment finalement s'est faite cette sorte de jonction entre les marchés et les tensions de la planète? L'année dernière, les cours mondiaux des matières premières ont chuté de 38%. Selon le rapport Cyclope, cette déprime des cours risque de durer un certain temps. Quels sont les facteurs explicatifs?
Nous sommes vraiment, et nous avons tourné la page du grand choc que les marchés mondiaux avaient connu de 2006 à 2014. Mmh. Et je pense, alors là, si je me projette dans l'histoire, que on parlera de ce choc 2006-2014 comme nous parlons aujourd'hui du choc des années 70. Et nous sommes effectivement exactement dans cette période de contre-choc. C'est le hasard de l'histoire. Cela fait 30 ans que nous sortons Cyclope. Mais il y a 30 ans, nous étions à peu près dans la même conjoncture, en plein contre-choc pétrolier, en situation d'effondrement de la plupart des marchés. C'était l'époque des guerres céréalières, de la chute des accords du café, de l'étain, etc. Eh bien, nous avons à peu près aujourd'hui la même conjoncture. L'ensemble des marchés est plutôt marqué au coin de la déprime, que ce soit l'énergie, que ce soit les minerais et métaux, que ce soit l'agriculture. La raison, elle en est relativement simple, c'est que nous avons eu beaucoup d'investissements, beaucoup de technologies nouvelles qui ont été mises en œuvre ces grossièrement 10 dernières années et qui commencent à porter leurs fruits. À un moment où, par ailleurs, la consommation et donc la croissance économique est moins importante que ce qu'on avait au début du siècle, avec un certain ralentissement de la croissance, notamment de la Chine, sans qu'il y ait vraiment de relais pour l'instant des autres pays émergents. Ajoutez à cela 3 années d'excellente récolte un peu partout sur le champ agricole, et vous avez des marchés, pour la plupart marqués au coin des excédents, donc des prix qui baissent, donc des tensions, donc des stratégies de temps en temps suicidaires de certains producteurs, que ce soit l'Arabie Saoudite pour le pétrole, l'Australie pour le minerai de fer, la Chine pour l'aluminium, etc., etc.
Alors on va développer sur la Chine. Francis Perrin, je me tourne vers vous pour le pétrole.
Effectivement, Philippe Chalmin rappelait, il y a 30 ans, 1986, le fameux contre-choc pétrolier, après les deux chocs pétroliers des années 1970 et le tout début des années 1980. L'histoire se répète, évidemment ce n'est jamais la même chose parce que ce n'est pas le même contexte, mais on a eu ce contre-choc pétrolier, appelons-le comme ça, depuis l'été 2014, avec une chute vertigineuse des cours. Nous sommes passés pour le Brent de la mer du Nord, qu'on prend souvent comme pétrole de référence, d'un pic de 115 $ par baril en juin 2014, à moins de 30, 27, 28 dollars par baril au creux du mois de janvier. On est maintenant quasiment à 50, donc les choses sont en train de changer. Mais en tout cas, une surabondance de pétrole depuis donc près de 2 ans, surtout liée à la production de pétrole non conventionnel en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, et à un changement de la stratégie de l'OPEP qui, alors que les prix ont chuté de façon vertigineuse, n'a pas fait son travail habituel consistant à réduire sa production pour faire remonter les prix. Donc ce sont deux changements, deux évolutions tout à fait majeures. L'un des enjeux de 2016, c'est de savoir si le marché pétrolier mondial va se rééquilibrer, si on va retrouver un équilibre entre l'offre et la demande, et donc voir disparaître cet excédent de l'offre qui a peu pesé sur les prix depuis l'été 2014. Ce qui est clair, c'est que le marché est en train de se rééquilibrer. Le processus est en cours. La question, c'est est-ce que ce rééquilibrage sera effectif en 2016 ou en 2017?
Alors, processus en cours. Vous évoquiez à l'instant l'Arabie Saoudite, Francis Perrin. On se demande précisément si finalement les Saoudiens ne sont pas dans une sorte de stratégie du désespoir avec les Américains qui produisent aujourd'hui du pétrole. Et puis l'Iran.
Vous avez prononcé deux mots importants, les Américains et l'Iran. Et c'est capital pour comprendre les deux tournants de la stratégie saoudienne depuis 2014. Le premier tournant, c'est novembre 2014. L'OPEP se réunit et sous l'influence de l'Arabie Saoudite, alors que les prix chutent depuis déjà plusieurs mois, l'OPEP décide de ne rien faire du tout, ce qui était nouveau à l'époque. Ce premier tournant saoudien, il n'est pas spécialement politique ou géopolitique, il est plus pétrolier économique. Mmh. Le message envoyé par l'Arabie Saoudite à l'époque consiste à dire « nous ne voulons pas réduire notre production et voir les pays non-OPEP, dont la Russie et quelques autres, ne rien faire, compter sur les efforts de l'OPEP et ensuite tirer les marrons du feu, profiter de la remontée des prix grâce aux efforts de l'OPEP, tout en nous prenant des parts de marché parce que ces pays non-OPEP n'auront pas baissé leur production ». Le deuxième tournant intervient en 2016, et là c'est un tournant qui est plus politique et géopolitique, où l'Arabie Saoudite, obsédée par le risque qu'elle attache à la montée en puissance de l'Iran, se dit « je ne vais faire aucune concession à Téhéran, je vais rendre coup sur coup, ça vaut pour le Yémen, ça vaut pour la Syrie, et ça vaut pour le pétrole ». Et donc quand nous avons la réunion de Doha au Qatar le 17 avril de cette année, réunion de 18 pays, presque tous les pays OPEP sauf Iran et Libye et quelques pays non-OPEP dont la Russie, l'objectif c'est de geler la production en 2016 pour consolider la reprise des prix. L'Arabie Saoudite, 48 heures avant ou 72 heures avant, était d'accord pour geler sa production le jour J, le 17 avril. La délégation reçoit des instructions du vice-prince héritier, le prince Mohammed Ben Salman, qui leur dit « pas de gel de la production si l'Iran ne fait pas de même ». Et comme tout le monde savait très bien que l'Iran ne l'allait pas geler sa production, c'est le fiasco de la réunion de Doha. Donc il y a eu deux tournants dans la stratégie saoudienne, fin 2014 et en 2016.
Alors, Philippe Chalmin, Francis Perrin l'évoquait à l'instant, les prix du pétrole qui ont atteint finalement leur prix plancher au début de cette année. On avait même craint l'année dernière, je me souviens, je vous avais tous les deux invités pour nous parler de l'édition précédente de Cyclope et de faire un point sur les matières premières. On évoquait même un prix du baril à 20 dollars, ce qui ne s'est pas produit. On est allé jusqu'à 27. Sur l'ensemble des matières premières, Philippe Chalmin, est-ce qu'on peut dire que les niveaux planchers sont atteints ou des surprises sont encore à venir?
Alors effectivement, il y a une expression anglo-saxonne totalement intraduisible en français qui est celle du pic beurre. Beurre, c'est l'ours. Et vous savez que sur les marchés, le taureau est haussier et l'ours est baissier. Et on se demandait si on n'avait pas atteint le point maximal des opinions baissières. Et c'est vrai que, sur nos indicateurs, le marché a touché, semble-t-il, une sorte de plancher aux alentours du mois de janvier-février. Et depuis, on a assisté à des rebonds. Francis parlait du rebond du pétrole, mais on peut parler du rebond du minerai de fer, du rebond d'un certain nombre de métaux non ferreux, etc., et de quelques marchés agricoles, pas tous. Peut-être, et peut-être avons-nous atteint un plancher, quoique je me méfie toujours du raisonnement sur lequel bien souvent on fait des erreurs, qui consiste à dire « les prix sont tellement bas qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas ». Parce qu'en fait, vous sous-estimez la résilience des producteurs à de faibles prix. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, c'est une dimension qu'il faut quand même introduire et qui est un sacré parallèle aussi avec les années 80. Ce à quoi nous assistons, c'est bien le retour de la malédiction des matières premières. J'aurais pu sous-titrer le 30e rapport Cyclope « Illusion perdue » en faisant allusion à Balzac. Je le garde peut-être pour celui... J'avais choisi Proust, mais je le garde peut-être pour l'année prochaine. Parce que de 2006 à 2014, on s'est mis à recroire qu'avec les matières premières, on allait pouvoir s'acheter du développement économique. Or la réalité, elle est inverse. Les matières premières sont une illusion pour le développement. Elles créent des dépendances. Et quand vous regardez le sort de tous les pays du Moyen-Orient, le sort du Venezuela, mais le sort aussi de nombre de pays africains qui ont cru que, avec un peu de pétrole et des minerais et métaux, ils achèteraient leur développement. Et malheureusement, nous assistons à cette déstabilisation qui ramène les matières premières au cœur de leur dimension géopolitique. Francis a bien mis en évidence la stratégie de l'Arabie Saoudite, etc. Rêvons un peu. Ne croyez-vous pas que l'Arabie serait encore l'Arabie heureuse s'il n'y avait pas eu de pétrole, s'ils avaient eu la chance de ne pas avoir de pétrole?
Mais tout cela, Philippe Chalmin, c'est un discours qu'on entend depuis des années.
Oui, bah d'accord, mais c'est pas de ma faute si les gens sont oublieux. Alors effectivement, quand vous avez le nez dans du pétrole à 40 dollars le baril, là vous écoutez un peu ce que racontent les économistes sur les matières premières. Quand le pétrole est à 110 dollars le baril, comme ça a été le cas, que vous avez votre équilibre budgétaire qui traîne, comme la plupart des pays de l'OPEP, entre 90 et 100 dollars le baril, ben à ce moment-là, vous avez une capacité à être sourd. Honnêtement, cette surdité, elle est celle de tous les politiques, qu'ils soient des pays en développement et des pays développés. Et question surdité des politiques, la France n'a vraiment aucune leçon à donner à qui que ce soit.
Francis Perrin, un commentaire sur ce que Philippe Chalmin
oui,
vient d'évoquer.
Oui, tout à fait. Il est parfaitement exact, si je prends le cas du pétrole, que ce n'est pas la première fois que les prix du pétrole s'effondrent. Mmh. Depuis cette fameuse décennie 1970, avec les deux chocs pétroliers, c'est la quatrième phase. Il y a eu 1986, la fin des années 1990, 2008, et maintenant depuis l'été 2014 jusqu'au début 2016. Nous verrons la suite.
Mais Francis, 2008, ça n'avait pas duré. Ça dure quelques mois
oui,
à peine.
Mais l'effondrement était quand même vertigineux, puisqu'en
absolument.
2008, on était passé de 147 dollars par baril à 35 entre juillet et décembre 2008. Donc c'est absolument vertigineux.
2008, une crise qui
oui,
est absolument générale.
Ah, bien sûr, il y a des explications macroéconomiques évidentes. Mais c'est quand même vertigineux pour des pays qui sont très dépendant des recettes liées au pétrole ou au pétrole et au gaz dans certains cas. Donc ce n'est pas la première fois. Et Philippe Chalmin le rappelait, ces pays ont des économistes, écoutent des économistes qui leur disent il faudrait être moins dépendant du pétrole. Et puis, chaque fois que les prix baissent, ils disent « on a compris la leçon », les prix du pétrole remontent et ils se disent « finalement, c'est tellement agréable le pétrole, il y a tellement d'argent qui tombe quand les prix sont... » Cette fois-ci, peut-être que quelque chose est en train de se passer de différent. Évidemment, il faudra un petit peu de recul pour le dire. Avec le plan économique à long terme présenté par l'Arabie Saoudite, la vision 2030...
Ça, c'est une vraie révolution.
Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, ensuite, est-ce que ça va réussir? Est-ce que les objectifs seront atteints? Entre maintenant et 2030, il va se passer beaucoup de choses en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Et ça pèsera évidemment sur la réalisation partielle ou totale ou très partielle de ce plan. Mais je pense qu'il y a cette vision qui vient d'ailleurs à nouveau de l'homme fort du régime, le vice-prince héritier, le prince Mohamed Ben Salman, ministre de la Défense, président du Conseil des Affaires économiques et du Développement, donc il cumule pas mal de rôles. Il a dit, en expliquant ce plan, j'ai regardé les chiffres de nos recettes et je les ai vus chuter de plus de 100 milliards de dollars depuis 2014. Et je me suis dit, on peut pas continuer comme ça. C'est le bon sens même. On aurait pu, avant 2016, avoir la même idée. Mais en tout cas, il l'a dit et il a fait quelque chose. Ça pourrait changer pas mal de choses. L'objectif, c'est de moins dépendre du pétrole dans le secteur énergétique en développant le gaz naturel, les énergies renouvelables, essentiellement solaire, sans surprise, et éolien, et de diversifier l'économie en faisant monter en puissance d'autres secteurs, le secteur minier, il y a un certain potentiel en Arabie Saoudite, les industries de la défense, stratégiques évidemment, fabrication d'équipements, certaines formes de tourisme, etc. Bon, c'est très ambitieux. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être un fiasco? Quelles seront les résistances internes en Arabie Saoudite? Ça, l'histoire n'est pas écrite. Mais je pense qu'il y a vraiment, pour la première fois depuis longtemps, la volonté politique d'un pays producteur ô combien majeur sur le plan pétrolier, non pas de se passer du pétrole comme on l'a trop rapidement écrit, mais de diminuer significativement la dépendance du pays par rapport au pétrole. Voilà, l'objectif est clair, les résultats, on verra un petit peu plus tard.
Philippe Chalmin.
Je dois l'avouer, d'un scepticisme absolu.
Sur la réussite du plan saoudien?
Absolument, parce que même si le constat est bon, nous avons une société qui aura été pourrie par le pétrole pendant quasiment un demi-siècle. Et le changement des mentalités sera extraordinairement difficile. Qu'on le veuille ou non, nous avons une société, d'ailleurs, sur l'ensemble des États du Golfe, qui est une société qui me rappelle la Rome antique. Quelques citoyens et des foules d'esclaves. Je ne suis absolument pas sûr que cela soit possible. Je vous rappelle d'ailleurs, et Francis doit s'en souvenir, que ça avait été un peu la réaction du Shah d'Iran au lendemain du premier choc pétrolier. Lui aussi avait tenté, il avait appelé ça la révolution blanche. Mais à la révolution blanche, son résultat a été la chute du Shah. Alors il y a d'autres raisons certainement, mais je suis malheureusement un petit peu sceptique. Alors, on a des exemples caricaturaux, comme ceux du Venezuela, comme celui même du Nigeria. En réalité, on le sait, il y a, si je prends cette malédiction des matières premières, bon, il y a un pays qui l'a bien géré, mais ce sont d'austères protestants calvinistes scandinaves, c'est la Norvège, et donc c'est pas un modèle intellectuel, culturel tellement exportable. Dans le champ des autres matières premières, il y a quand même le cas du Chili, qui a admirablement géré la rente du cuivre. Alors ça écorche toujours un peu la gorge parce que c'est Pinochet qui avait mis ça en place. Mais ça a tenu et ils ont bien géré pour un pays qui dépend quand même pour un tiers de ses recettes d'exportation du cuivre, c'est à signaler. Il y a le Botswana pour le diamant, qui est un bon cas de figure. Et puis il y a un pays, je me souviens la première fois que j'étais en Malaisie, il y a pas loin d'une quarantaine d'années, c'était encore le sortilège malais, c'était les plantations d'EVA, c'était le début du palmier à huile, c'était l'étain. Aujourd'hui les matières premières ne comptent plus du tout pour la Malaisie qui a su totalement se diversifier. Mais en dehors de ces cas-là, malheureusement, cette malédiction des matières premières, elle est bien là et elle porte en elle-même les germes de tant de conflits que j'ai même du mal à imaginer le retour à l'Arabie heureuse.
On peut ajouter Dubaï pour le pétrole. Je ne dis pas que c'est un modèle exportable, Dubaï c'est Dubaï, mais c'est un pays qui a anticipé la chute de ses revenus pétroliers au sein de la Fédération des Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi qui est la puissance pétrolière et gazière. Dubaï est le deuxième émirat par ordre d'importance économique. Sur une période de 15 à 20 ans, ils ont anticipé la baisse de leurs revenus pétroliers pour transformer leur économie. Mais il est tout à fait normal et sain, je dirais, d'être sceptique par rapport à ce que nous évoquions sur l'Arabie Saoudite. C'est tout à fait normal, historiquement. Ce qui est sûr, c'est que il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent cette fois-ci, mais je ne vais pas extrapoler à long terme, c'est que, à la faveur de la chute des prix du pétrole qui a été drastique, plusieurs pays, dont même l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis avaient été les pionniers un petit peu avant, ont significativement commencer à réduire les subventions sur les prix internes des produits pétroliers, ce qui a entraîné évidemment de fortes augmentations des prix notamment des carburants et des prix de l'énergie, parfois des prix de l'eau, mais ça c'est un autre sujet. Alors, ces prix ne sont pas au niveau du marché mondial, on en est loin. Mais c'est quand même très rare que ces pays osent, et ils l'ont fait parce qu'il y avait une contrainte évidemment économique, financière et budgétaire, annoncer à leur population et mettre en place, donc fin 2015, début 2016, ça dépend des pays, il y a eu aussi le cas en Algérie pour sortir de la région du Golfe. Donc c'est un élément qui est significatif, mais c'est un petit élément, il en faudra beaucoup d'autres, et la partie est loin d'être gagnée.
Oui, moi je ne mettrai pas quand même Dubaï comme Philippe un exemple, Charles. Dans la mesure où pour moi, alors les Émirats pétroliers, c'est quand même une artificialité absolue. Je rappellerai d'ailleurs que en 2008, au moment de la grande récession, Dubaï a été la grande tour de Dubaï porte le nom de la dynastie régnante à Abu Dhabi qui a fait les fins de mois de Dubaï pendant un moment. Il y a malheureusement
ils sont bien redressés
depuis. Nous parlions d'émirats pétroliers. Il y a d'autres exemples. Il y en a un d'ailleurs qui géopolitiquement est au cœur de nos problèmes. Il s'appelle la Russie. Il faut quand même le rappeler, la Russie, l'économie russe, c'est des matières premières, que ce soit de l'énergie, pétrole et gaz. Et nous n'avons peut-être pas assez souligné à nos auditeurs que le contre-choc dont nous parlons sur le pétrole, il est presque encore plus fort sur le gaz naturel, et bien entendu, malheureusement pour le climat, sur le charbon.
Voilà, nous développerons tout cela dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités Philippe Chalmin et Francis Perrin dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les marchés des matières premières, miroir de toutes les tensions géopolitiques et économiques de la planète. Nous retrouvons nos invités. Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, président fondateur de Cyclope, le principal institut de recherche européen sur les marchés des matières premières. Cyclope qui publie cette année la 30e édition du rapport annuel du même nom sous le titre « Les marchés mondiaux à la recherche des sommets perdus » aux éditions Economica. Et Philippe Chalmin qui a par ailleurs dirigé des ressources et des hommes matières premières 1986-2016. Trois décennies de mondialisation et au-delà qui vient de paraître aux éditions François Bourin. Et Francis Perrin, président de stratégie et politique énergétique et directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabes et de la lettre OAG Africa. Francis Perrin, effectivement, on parle beaucoup de la reprise du pétrole et on évoque moins souvent la question du gaz.
Les prix du gaz ont également beaucoup chuté pour deux raisons principales. D'une part parce que le gaz exporté par les pays producteurs est souvent indexé sur les prix du pétrole et ou des produits pétroliers. Et donc, la chute des prix du pétrole a entraîné dans son sillage les prix du gaz. Et puis, par ailleurs, des dynamiques propres au marché gazier, avec là aussi un excédent, une bulle gazière sur le marché. Et encore une fois, on retrouve, c'est la réalité de ces dernières années, le rôle clé des États-Unis avec la montée en puissance des gaz non conventionnels, notamment ce qu'on appelle souvent en français le gaz de schiste. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de gaz devant la Russie, alors que la Russie était de très longue date le numéro un mondial et de façon incontestable. Donc il y a un excédent gazier et cet excédent, il n'est pas forcément tout à fait prêt d'être résorbé. Peut-être ne peut pas prévoir l'avenir, à Cyclope n'avons pas encore de boule de cristal, mais peut-être que l'excédent de l'offre sur le marché pétrolier va se résorber avant que le marché gazier ne retrouve son équilibre.
Philippe Chalmin, je me tourne vers vous. On évoquait dans la première partie de l'émission le retour de la malédiction des matières premières. On évoquait le Venezuela qui est dans une situation absolument catastrophique. Pour le Brésil, on est un peu tombé de l'armoire de voir que finalement ce pays émergé n'avait pas résolu la question des matières premières, défaut d'industrialisation patent et une situation compliquée aujourd'hui.
Oui, alors je ne mettrai pas quand même le Brésil totalement dans la même catégorie. Vous vous souvenez de cet acronyme lancé par un économiste de Goldman Sachs, BRICS. Honnêtement, c'était une escroquerie intellectuelle. La Russie n'a jamais été un pays émergent, et malheureusement l'Afrique du Sud non plus. Donc il me restait BIC. Alors l'Inde et la Chine ont chacun leur destin, mais c'est vrai que le Brésil, on a tous voulu y croire. Et c'est vrai que en plus, alors en France en particulier, cette arrivée de Lula, du Parti des Travailleurs, etc., cela nous plaisait beaucoup. Le retour sur Terre est extraordinairement difficile. Je pense qu'il est avant tout lié à l'absence de maturité de la gouvernance économique et sociale brésilienne. Même si notre correspondant au Brésil, Jean-Yves Carfentan, nous dit « Mais vous vous rendez pas compte les progrès qu'il peut y avoir, parce que maintenant, on peut traîner en prison un ministre pour corruption. C'eût été impossible il y a 15 d'années. Donc, la démocratie brésilienne a fait quand même d'énormes progrès. Néanmoins, le Brésil reste dépendant vis-à-vis d'un certain nombre de matières premières. Le cours du minerai de fer a connu à peu près le même sort que le cours du pétrole. Le Brésil est le deuxième exportateur de produits agricoles et agroalimentaires mondiaux, c'est pas là-dessus qu'ils ont le plus souffert, même si la carence des infrastructures est devenue de plus en plus criante. Et puis, finalement, c'est pas un hasard si le coup fatal pour Dilma Rousseff est venu de l'affaire Petrobras. C'est-à-dire que c'est vrai que eux aussi ont été touchés par les illusions des matières premières. Je parle sous le contrôle de Francis Perrin, mais il me semble qu'à un moment, le grand champ pétrolier au large de Rio devait s'appeler le champ Lula ou quelque chose comme ça. C'était le rêve que le pétrole allait sauver le Brésil. Alors malheureusement, d'abord, ça a été un trou sans fond en termes de corruption au sein de Petrobras, puis apparemment, ça va coûter cher à sortir, parce qu'il y a 3000 mètres d'eau, 3000 mètres de sel. À l'heure actuelle, si ça produit, ce serait pas rentable. Et donc le Brésil se trouve malheureusement confronté aujourd'hui à ces vieux démons politiques et sociaux qu'il n'a pas réglés, mais ce sont aussi les aléas que peut connaître un pays émergent. Je vous rappelle simplement, et permettez là à l'historien de revenir, que les processus de décollage économique sont rarement des processus continus, sans accroc. Lorsque les États-Unis ont été le grand pays émergent de la planète, c'est à la fin du 19e siècle. Entre 1880 et 1914, leur croissance économique moyenne, elle est de 4,5%, et tous les 5 à 6 ans, on s'est tapé une grande crise, à la fois sur les marchés boursiers et du point de vue économique. Avec la Chine, on a quelque chose de totalement exceptionnel, qui n'a aucun équivalent. La Chine, ça fait 40 ans qu'ils roulent en moyenne à 10%. Et ils nous font en plus pour l'instant un atterrissage en douceur qui est à peu près réussi. Jamais ça ne s'est passé.
Enfin, la Chine.
Il n'est pas aberrant que le Brésil connaisse des hauts et des bas. Je n'enterrerai pas le Brésil aussi rapidement, même s'il est en pleine crise politique.
Alors la Chine qui n'est peut-être pas à l'abri d'une crise, mais on va peut-être pas développer et sortir la boule de cristal. Je reviens sur la question du pétrole, Francis Perrin. La reprise du pétrole, c'est une bonne nouvelle pour le Venezuela, par exemple. Je veux dire, est-ce que ce pays peut se redresser légèrement ou en tout cas éviter de continuer de dégringoler ?
Comme toujours, la remontée des prix du pétrole, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vendent du pétrole. Leurs compagnies nationales, les compagnies pétrolières privées, éventuellement, malheureusement, des groupes terroristes tels que l'État islamique. Mmh. Et c'est une moins bonne nouvelle pour tous ceux qui en achètent. Mmh. Pour la question du Venezuela, oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Dès que les prix ont commencé à chuter à l'été 2014, au sein de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui compte 13 membres, le Venezuela était le premier à sonner le tocsin, en disant « il faut absolument faire quelque chose, c'est très grave ». Et pour cause, puisque, étant donné que ce pays n'avait pas constitué de réserves financières pendant les années de vache grasse entre 2011 et la fin du premier semestre 2014, il s'est évidemment trouvé tout de suite démuni. Mais ces efforts n'ont pas réussi, et l'OPEP, comme on l'évoquait tout à l'heure, n'a rien fait jusqu'à présent. Donc, c'est mieux d'avoir, pour le Venezuela, des prix à $50 par baril qu'à moins de 30 et à 27, effectivement. Cependant, la crise est tellement profonde, le pays est tellement au fond du trou, qu'il faudrait que les prix, du point de vue du Venezuela, que les prix remontent encore bien davantage. Et puis, encore une fois, comme le disait Philippe Chalmin, le Venezuela ne va pas être sauvé seulement par le pétrole. Il y a évidemment des problèmes politiques et sociaux internes, aggravés évidemment considérablement par une crise économique sans équivalent. Mais encore faut-il bien gérer les revenus du pétrole quand l'argent recommence à tomber un petit peu dans les caisses qui en l'occurrence sont complètement vides. Donc un prix à $50 par baril, c'est nettement mieux que 30 pour le Venezuela, mais c'est pas la fin des difficultés, le mot est faible, pour ce pays. Et il faut voir évidemment si le pétrole reste à $50 par baril. Bon, il y a des chances pour que les prix se consolident, il n'y a pas de certitude non plus. Donc vraiment, le Venezuela ne peut pas se dire « chic, les prix du pétrole remontent et bientôt, dans quelques mois, je vais me sortir de cette affaire-là ». Maintenant, on est en plein dans une crise politique de première ampleur, qui met évidemment en cause le pouvoir du président Nicolas Maduro, donc on va très très loin. Il faudra beaucoup plus que $50 par baril pour sortir le Venezuela de la crise.
Mais si Philippe je peux Chalmin. Me permettre, le Venezuela, c'est l'exemple caricatural de la malédiction des matières premières. Vous savez, le moment où les vapeurs du pétrole montent à la tête de celui qui est au pouvoir, qui est souvent arrivé avec de bonnes intentions. Parce que c'est vrai qu'Hugo Chavez, au départ, il s'apprêtait à nettoyer, parce que le malheur du Venezuela, il commence bien avant. L'oligarchie qui était au pouvoir avant Chavez avait déjà quand même largement coulé le Venezuela. Alors là, de Chavez à Maduro, on est passé de Karim Dancilla, et c'est vrai que je crois que l'équilibre budgétaire se ferait à $160 le baril, et au premier trimestre, le Venezuela, qui détenait jusque-là, parce que Chavez avait constitué des stocks d'or importants, c'était ça les réserves, je crois qu'ils ont vendu une quarantaine de tonnes d'or au premier trimestre, ils sont incapables de payer leurs factures, c'est vraiment la caricature. Mais je le répète, c'est facile de tirer sur Chavez. Il y a eu un moment où sa mégalomanie a pris le dessus, comme elle avait pris le dessus pour Kadhafi, pour Saddam Hussein, et même de temps en temps pour les mollahs iraniens. Au fond, il y aurait d'ailleurs de l'influence des cours du pétrole sur le comportement des dictateurs.
Sur la santé mentale des dictateurs, c'est un peu ça qu'il faut, en tout cas.
Nous disions tout à l'heure, Philippe Chalmin disait tout à l'heure, les gens sont souvent très oublieux, et les États également, les dirigeants également. Cela dit, certains d'entre eux ont tiré quand même certaines leçons des contre-chocs pétroliers précédents. Aujourd'hui, bon nombre de pays producteurs de pétrole ont des fonds souverains, des mécanismes très simples. Ça peut être la banque centrale. Quand le prix du pétrole est élevé, on met une partie de l'argent qui rentre, et il en rentre beaucoup dans ces périodes-là, dans ces fonds souverains, dans les caisses de la banque centrale, pour pouvoir aller prélever sur ces ressources lorsque le prix du pétrole chute, ce qu'il fait toujours. Le prix du pétrole n'est jamais stable. Le Venezuela est aujourd'hui l'un des rares pays importants producteurs exportateurs de pétrole. Enfin, ça peut être formel, mais en tout cas, ne pas avoir agit de cette façon-là, alors que les pays du Golfe l'ont fait, que l'Algérie a commencé, lorsque les prix du pétrole ont commencé à chuter, la Banque d'Algérie avait 190 milliards de dollars dans ses caisses. Ce qui fait que ce pays, alors ils ont perdu 50 milliards de dollars en 2 ans,
mais il y avait des entre
fin 2013 et fin 2015,
pouvoir...
mais l'Algérie n'est pas étranglée comme le Venezuela. Donc là, c'est quelque chose d'élémentaire. Quand on est aussi dépendant des prix d'une matière première cotée sur des marchés qui augmentent, qui baissent toutes les 5 minutes, constituer des réserves, quand les choses vont bien, eh bien aujourd'hui, il y a à peu près que le Venezuela qui ne l'a pas fait à ce point-là, d'où entre autres choses, évidemment, l'ampleur de la crise que traverse ce pays et qui est absolument dramatique, et le mot n'est pas trop fort.
Francis, on
très rapidement,
quand même
après ça, on va quitter le pétrole.
On pourrait peut-être rajouter quelques pays africains qui sont de petits producteurs. Je pense au Tchad, par exemple. Je pense au Ghana. Des pays dont le pétrole ne pèse pas très très lourd sur les marchés mondiaux, mais suffisamment important dans l'économie locale pour avoir un puissant effet de déstabilisation. Le Ghana avait très bien géré, à l'époque de Jerry Rawlings, avait très bien géré la rente du cacao. Malheureusement, l'arrivée du pétrole a totalement déstabilisé l'économie, au point qu'ils ont été obligés de quémander l'aide du FMI l'année dernière.
Alors, pour terminer cette émission, je souhaiterais qu'on aborde deux choses. La question de la récolte mondiale de grains 2016-2017, j'ai lu qu'elle serait la deuxième plus forte de l'histoire, d'après le Conseil international des céréales. Donc, on peut être tranquille dans ce domaine. C'est une question, et je vous demande de confirmation. Et l'autre chose, le niveau bas des matières premières, c'est un cycle pour combien d'années ? On a bien compris que le ralentissement de la croissance chinoise avait eu un impact sur cette baisse. La question indienne et l'émergence de l'Inde, à quelle échéance est-ce que tout cela va faire remonter les cours ? Peut-être on commence par les céréales, Philippe Chalmin, on est tranquille.
Absolument. La grande actualité de 2015, c'était El Niño, qui avait déjà eu la responsabilité de la flambée des cours en 95-97 et plus récemment en 2006-2008. Heureusement, ou malheureusement pour les marchés, El Niño n'a pas eu l'impact attendu parce que, en termes de timing, il n'a pas eu le même impact sur les récoltes. Alors, c'est vrai que sur cette campagne 2015-2016, le monde va produire pratiquement plus de 3 milliards de tonnes de grains. Et quand on a publié le premier cyclope il y a 30 ans, on était à 1,7 milliard. Vous voyez, la progression. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Donc ça a permis aussi au nombre de malnourris, ce nombre de malnourris au compte de la FAO, il ne serait plus que 800 millions aujourd'hui. Alors cette bonne nouvelle n'est pas une très très bonne nouvelle pour les marchés, parce que effectivement, nous sommes plutôt orientés aujourd'hui à la baisse, avec d'ailleurs des menaces importantes dans l'évolution des politiques agricoles d'un certain nombre de pays, au premier rang desquels la Chine. Il y aurait aujourd'hui, alors on ne sait pas très très bien, entre 100 et 200 millions de tonnes de maïs qui pourriraient dans les entrepôts publics chinois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bonne nouvelle, le monde donne une récolte qui va être effectivement pas loin des records. Mauvaise nouvelle, au moins pour les producteurs, les prix risquent de ne pas être très très soutenus dans les mois à venir.
Alors évidemment, des aléas climatiques et la France en connaît un petit morceau avec les pluies abondantes et les inondations, peut-être un impact sur les récoltes de blé à venir et les récoltes de maïs. Le faible niveau des matières premières, ralentissement de la croissance chinoise, mais l'Inde qui va pointer son nez, est-ce qu'on peut imaginer, ce sera peut-être la dernière question pour cette émission, une remontée et à quelle échéance des cours des matières premières.
Alors moi, si je prends ma théorie un petit peu des cycles, je vous rappelle qu'après le choc des années 70, on a mis 20 ans à s'en remettre grossièrement, alors avec un événement majeur qui fut l'éclatement de l'URSS qui plomba un petit peu plus les marchés. Là, je parle globalement, je pense que on est à des niveaux de plancher. On peut, dans un certain nombre de cas, percer les planchers. Je ne crois pas qu'on s'en extraira de manière durable. Et pour moi, nous sommes rentrés sur une période assez longue de prix durablement déprimés, avec, à l'horizon, peut-être un choc prochain, vers la fin de la prochaine décennie, donc fin des années 2020, provenant d'un nouveau boom de consommation et qui pourra venir de l'Inde et pourquoi pas, soyons optimistes, de l'Afrique.
Francis Perrin.
Sur le pétrole, on a, pour l'année 2016, des éléments positifs et négatifs du point de vue des producteurs en termes de redressement des prix. Les points négatifs, ils sont bien connus. L'OPEP ne fait pas grand-chose, et c'est une façon très diplomatique de le dire. L'Iran augmente sa production et ses exportations, et ce n'est pas fini. L'Irak également, il ne faut pas oublier ce pays qui est absolument considérable en termes de potentiel pétrolier. Et les stocks pétroliers mondiaux sont absolument gigantesques, ça craque de partout. Ça, c'est les éléments, évidemment, qui sont plutôt baissiers en termes de prix. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des éléments haussiers. Le premier, c'est que la demande pétrolière mondiale, elle augmente. La dernière fois qu'elle a baissé, c'est 2009. Depuis 2010 jusqu'en 2015, et ce sera le cas en 2016, et ce n'est pas fini, on a une demande pétrolière mondiale qui augmente.
On s'en étonne d'une certaine manière, Francis Perrin ?
Pas pour moi. Compte tenu du poids des pays émergents et en développement, c'est pas du tout une surprise. Ce sont eux qui tirent à la hausse la consommation pétrolière mondiale. Donc c'est un élément important. C'est pas un marché à somme nulle. On a une demande qui augmente, et ce n'est pas fini, ça va pas s'arrêter en 2016. On a une production des États-Unis qui diminue depuis mai 2015. Or, les États-Unis, c'est le premier producteur mondial de pétrole, et ce sont eux qui très largement ont créé, sans faire exprès d'ailleurs, mais l'excédent de production grâce au pétrole non conventionnel. Donc ça, c'est une donnée très importante. Troisième élément en termes de signal haussier sur le marché, en 2016, la production de l'ensemble des pays hors OPEP devrait baisser pour la première fois depuis 2008. Ce n'est quand même pas rien. Donc voilà, on a des facteurs baissiers bien identifiés, on a des facteurs haussiers bien identifiés. Est-ce qu'il va y avoir un équilibre et qu'on va donc rester autour de $50 par baril, un petit peu plus, un petit peu moins? Est-ce que le rééquilibrage du marché qui est en cours va se poursuivre et on va voir les prix peut-être remonter un petit peu vers $60 par baril? Ce sont des scénarios, rien n'est sûr, mais possible. En n'oubliant pas que remonter des prix ne veut pas dire qu'on va faire un bond pour remonter à $100 par baril, parce que si les prix du pétrole, ce qui est probable, continue à remonter, même modérément, aux États-Unis. Certains des producteurs de pétrole non conventionnels qui sont sortis du marché parce que les prix étaient trop bas, vont recommencer à faire de leur facturation hydraulique, vont remettre plus de pétrole sur le marché, et ça mettra donc un plafond aux possibilités de hausse des prix du pétrole, pas éternellement, mais au moins à court et moyen terme.
En tout cas, la question essentielle, et ce sera la fin de cette émission, Francis Perrin, en ce qui concerne le pétrole, c'est qu'on a pensé pendant longtemps que pénurie il y avait. Or, finalement, on est face à une abondance...
Surabondance.
Surabondance.
Et ce n'est pas fini. L'excédent de l'offre sur la demande est en train de se réduire, mais on est dans une ère d'abondance du pétrole, du gaz et du charbon, et on est loin de voir la fin de cette ère d'abondance ou de surabondance.
Philippe Chalmin.
Il y a simplement un marché qui est dramatiquement déprimé, et ça c'est très dangereux pour l'avenir de l'humanité, c'est malheureusement le prix du carbone.
Absolument.
Malheureusement, on ne peut que le regretter.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Philippe Chalmin, qui est professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, président fondateur de Cyclope, le principal institut de recherche européen sur les marchés des matières premières. Cyclope qui publie donc cette année la 30e édition du rapport annuel du même nom sous le titre « Les marchés mondiaux à la recherche des sommets perdus » aux éditions Economica. Et Philippe Chalmin qui a par ailleurs dirigé « Des ressources et des hommes, matières premières 1986-2016, trois décennies de mondialisation et au-delà » qui vient de paraître aux éditions François Bourin. Merci aussi à Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique et directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabes et de la lettre OAG Africa. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique fera le point sur la campagne présidentielle américaine. À samedi prochain.